Mesdames, Messieurs, chers amis de Claude Delarue, chers amis de la MRL, chers amis de la littérature, soyez les bienvenus aujourd'hui, ici, pour cette réunion qui a pour objet de rendre hommage à l'œuvre et à la personne de l'écrivain Claude Delarue. C'est une chose extrêmement importante que de pouvoir parler d'un écrivain avant qu'il n'ait complètement disparu de notre horizon. Et nous sommes extrêmement contents de pouvoir célébrer ainsi sa présence parmi nous, qui nous restera par ses livres, et ses livres qui sont des objets extrêmement utiles pour nous rappeler l'immense qualité d'écrivain et de la fiction de cet auteur. Nous sommes ici plusieurs pour rendre hommage à cette œuvre. Marlise Pietri, éditrice des éditions Zoé, qui a publié des livres de Claude, qui d'ailleurs se trouvent en bas, si vous ne les avez pas encore. Je prends dans l'ordre. Monsieur Jean-Maurice de Montrémy, critique littéraire pendant de longues années à La Croix, qui aujourd'hui est devenu éditeur, et qui a donc rendu compte, au cours de son activité de critique des livres de Claude Delarue, par le plus grand des hasards, il est devenu un voisin, ou plutôt Claude Delarue et Pascal Rose sont devenus des voisins de M. de Montremy et de sa famille, si bien que des liens encore plus étroits se sont noués. Pascal Rose, l'épouse de Claude Delarue, elle-même romancière, et Fawzia Assad, écrivaine, grande amie des Delarue, et aussi une amie très fidèle de la littérature et en Suisse romande, et notamment à Genève. Et moi-même, je m'appelle Doris Jacubec, et je suis la présidente de la Maison Trousseau de la littérature, et j'ai aussi une activité de critique littéraire. Connaître Claude ne signifiait pas l'entendre parler de ses livres ou de ses projets, sur lesquels il était très discret, extrêmement réservé, et tout se passait comme s'il était un honnête homme, actif, intéressé par tout, mais écrivain était une activité dont il ne parlait guère. Ce qu'il voulait au contraire, c'est des lecteurs. Et ses livres étaient destinés à des lecteurs. Et c'est par ses livres, et dans ses livres, et à travers ses livres, qu'il se dévoilait et qu'on pouvait peut-être l'apercevoir mieux. En revanche, le connaître consistait à l'écouter, parler du monde d'aujourd'hui, sur lequel il était parfaitement au clair, et parfaitement sombre aussi, et de le connaître nous donnait un savoir plus grand sur sa nécessité profonde d'écrire et son goût de créer des histoires, des aventures exploratoires, exploratrices et vivantes qui peuvent prendre parfois la forme d'énigmes, de mystères ou d'aventures intellectuelles. En fait, Claude Delarue s'est peint dans chacun de ses personnages. Ils ont les mêmes préoccupations que lui, partagent les mêmes hantises, conduisent les mêmes recherches, qui tiennent en haleine le lecteur, certes, mais il dit aussi que lui aussi est tenu en haleine par ses personnages. Ils sont donc créés à partir de lui-même et dans la grande cohérence de sa personne, de sa pensée et de son talent d'écrivain. N'aimant pas parler de ses livres, n'étant pas à l'aise non plus avec la critique ou avec les médias, il a en quelque sorte résisté à l'usage qui a consisté à toujours interroger l'écrivain sur ses livres, à comprendre les livres en connaissant les passions des écrivains. Lui a voulu rester à une grande distance de ses livres, la distance du créateur à sa créature, la distance de celui qui conçoit et de celui qui vit. C'est donc des chroniqueurs qui ont pu rendre compte des livres et qui sont devenus presque toujours progressivement des amis de Claude Delarue. À Genève, le journal de Genève, qui est devenu Le Temps, par l'intermédiaire de ses critiques, a fait très fidèlement ce travail de rendre compte des livres de Claude Delarue, pas seulement en les signalant à l'attention, mais en leur réservant de grands articles. D'abord Georges Annet, j'imagine que vous l'avez connu, et qui s'est absolument impliqué avec une empathie qui lui était coutumière à l'intérieur des livres de Claude Delarue. Je voudrais vous en citer un tout petit exemple que je prends dans le livre des chroniques que Georges Annet a donné au journal de Genève, et c'est dans les livres les plus célèbres de Claude, La Mosaïque, qui avait reçu en son temps le prix d'antan, qu'il parle et qu'il évoque. À la sortie du livre, donc, comme un premier hommage à un livre qu'il vient de lire. La conclusion, vous verrez, nous conduit à voir l'ensemble des livres de Claude et Claude lui-même. Les siècles se rejoignent et se rassemblent, écrit Georges Annet, parfois se répètent. Les lettres adressées par Publius au médecin grec Oribase à Alexandrie s'intègrent au cours moderne du roman, comme la campagne de Perse où l'empereur Julien perdit la vie fait écho aux guerres d'aujourd'hui. Et la cruauté répond à la cruauté, la vengeance à la vengeance. De même que Publius a tué sa maîtresse chrétienne qui l'a trahi, Thomas Wald tue la jeune Allemande qu'il a dénoncée aux agents nazis. Les correspondances se multiplient, l'histoire humaine se conjugue sur des temps et des modes recommencés. Le roman de Claude Delarue suggère et illustre ce mouvement, qu'il sait rendre à la fois évident et imprévisible, enveloppé dans une sorte de fatalité ironique. La vérité des êtres transparaît sur la surface miroitante des mots, ultime recours contre la vanité et l'indifférence du monde. Je crois que nous ne saurions mieux dire aujourd'hui l'impression immense de ce livre et du compte rendu de Georges Annet. Isabelle Martin, elle, a aussi poursuivi dans la ligne de Georges Annet et est rendue compte avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sobriété, de chaque roman de Claude Delarue. Et finalement, elle a décidé d'écrire le premier livre sur Claude Delarue. Premier livre sur cette œuvre immense et dû à Isabelle Martin, qui s'est intitulé Claude Delarue, La grandeur des perdants. Elle a très bien compris, naturellement, tous les registres de l'humour qui sont à l'œuvre dans les romans de Claude Delarue, mais aussi cet extraordinaire besoin de grandeur chez Claude Delarue. Et en même temps, cette compréhension comme deux faces d'un même objet, du rôle de la perte, du rôle de la disparition, du rôle de la fin. Et c'est pourquoi elle a intitulé son livre « La grandeur des perdants ». Ce qui signifie que la grandeur se conjugue tout à fait avec la mort et la disparition. C'est une manière de comprendre encore mieux la grandeur que de lui adjoindre cet effet de la disparition ou de la mort. Je voudrais vous lire un petit passage d'Isabelle Martin en son souvenir, son honneur. Il se trouve qu'Isabelle Martin, juste après avoir fini son livre, était atteinte d'un cancer et qu'elle est décédée encore avant Claude. Donc, c'est des livres qui sont très précieux pour nous parce que les deux personnes qui ont extrêmement bien compris l'œuvre de Claude Delarue et l'ont accompagnée sont parties dans le même temps. La petite partie que je vais vous lire s'appelle « Grandeur de l'échec ». Et cette conclusion se base et s'appuie sur « Le triomphe des éléphants », aussi un livre très connu de Claude. « Entre le ratage difficile et la réussite improbable, comment trouver sa voie ?» L'homme qui juge une tâche digne d'être entreprise, professe MacVicar, doit s'y consacrer jusqu'au bout, même si les probabilités de réussite sont quasi nulles, car le résultat compte moins que l'accomplissement. C'est pourquoi l'échec du géant roux est sanctifié par les 13 trompes, 26 oreilles et autant de barrissements du triomphe des éléphants. Échouer dans cette acception, ce n'est pas faillir irrémédiablement, c'est au contraire considérer la défaite comme une étape à dépasser grâce au nouvel élan, au regain de vigueur qu'elle confère à qui l'a subi. Ce qui importe plus que tout, c'est l'obstination, la fidélité à une hantise fondatrice. Telle est la leçon de vie donnée par les personnages de Claude Delarue, génies ou faussaires, chasseurs d'absolu en rade, éclopés, marginaux, alcooliques, visionnaires à la dérive, rescapés des désastres intimes. Ce sont tous des perdants, peut-être, mais des perdants magnifiques. C'est ces mots d'Isabelle Martin qui retentissent en nous, et je voudrais maintenant donner la parole à Marlise Pietri. Claude Delarue a exercé deux métiers, le métier d'éditeur et le métier d'écrivain. L'éditeur est de préposer à toutes sortes de travaux éditoriaux. Il était donc à même de comprendre le travail de Marlise Pietri, et elle va nous rendre compte du dialogue qui peut se passer entre écrivain et éditeur.
Alors, plus modestement, nous avons simplement publié un mini-zoé, et puis nous avons republié En attendant la guerre, l'année passée, comme une version originale, parce qu'il n'y en avait plus, et puis publié en poche la mosaïque. Donc, je ne vais pas beaucoup parler des relations éditoriales avec Claude, mais de longues relations. J'étais lectrice et j'étais quand même une éditrice pour lui, et puis nous avions une amie commune qui était Isabelle Martin. C'est vrai qu'il est très difficile de parler de Claude Delarue et de son œuvre ce soir pour moi et pour beaucoup d'autres. Hein. Heureusement que Pascal Rose, tout à l'heure, a choisi de dire le côté humoristique de son œuvre, hein, qui n'est pas mineur, mais qui traverse tous ses textes. C'est difficile parce que la coïncidence entre la disparition d'Isabelle Martin, qui était depuis 35 ans sa meilleure lectrice, et qui venait d'écrire un livre sur lui, et celle de Claude, 6 mois, est troublante. Il est impossible pour moi d'en dire quoi que ce soit dans un temps si court, mais il est impossible non plus de le taire. Les questions me viennent à l'esprit sur le destin des personnes entre lesquelles s'entrecroisent si intimement l'amour de l'œuvre pour la lectrice et le critique, et pour l'écrivain, la nécessité qu'il avait d'écrire et d'être lu et d'être entendu. Donc ce sont des réflexions qu'on pourra faire plus tard. Elles seront nécessaires. C'est Isabelle Martin qui m'a fait découvrir l'œuvre de Claude Delarue et puis qui me l'a fait rencontrer lui-même. C'était l'époque de l'Herméneute ou le livre de Cristal qui a donné lieu à un film, d'ailleurs de Patricia Platner, qui a été donc porté à l'écran par elle. Et dans les années qui ont suivi, le roman qui m'a conquise le plus fortement et de manière entêtante, j'étais à l'époque désolée qu'il ne reçoive pas le prix Femina à une voix près, parce que Claude Delarue aurait eu à Paris une notoriété qui lui aurait été très utile pour la suite de son œuvre. Alors, pourquoi est-ce que je choisis de vous dire deux, trois mots de ce roman que j'apprécie beaucoup, alors que d'autres fictions me sont proches aussi, comme Le Triomphe des éléphants, La faiblesse de Dieu, dont il va être question, mais qui est un roman trop compliqué pour moi. Voilà. Et les nouvelles extraordinairement réussies que je vous conseille absolument de Bienvenue à Tahiti. Eh bien, je pense que c'est parce que l'époque de sa parution, en attendant la guerre, 1989, et son centre romanesque coïncident absolument. Il raconte en 1989 la folie qui s'était emparée d'un homme un grand architecte d'un couple, elle était une grande comédienne, dans l'attente de la guerre, à vouloir se protéger de manière aberrante d'une guerre totale et peu probable. Donc, en attendant la guerre, paraît en 89, et c'est tout de même le moment où la guerre froide va se dissoudre dans un magma historique moins précis dans lequel nous vivons. On peut parfaitement croire au héros Samuel Leber du roman qui construit dans la montagne une forteresse souterraine invincible. Ce point m'avait vraiment conquise. Nous vivions dans une idée de guerre floue, totale, erronée quand même, depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, je lis en premier lieu toute autre chose dans ce roman. Donc nous l'avons réédité, je l'ai relu. La guerre que Samuel Leber et Olga Grekova attendent est moins importante que, dès le départ, la guerre entre les personnages. Si on le lit bien, on le voit dès la deuxième page, entre les hommes. Et comme c'est un grand roman d'amour, et que je le lis maintenant, donc je vois particulièrement cette violence et cette guerre entre les hommes, avec la femme qui est un peu en arrière, mais qui manipule passablement. Les hommes y sont acharnés, certains peu soucieux de clairvoyance et d'autres voués à une lutte de chaque instant, de tout leur corps, une lutte mortelle. La femme, Olga Grekova, est une héroïne superbe de haute tenue qui sait conquérir le narrateur. Et en relisant ce roman, je me suis souvenue d'un commentaire de Claude Delarue alors qu'il venait de relire Anna Karénine. Il me dit, d'un ton et d'une voix où il mettait toute sa pensée et toute son énergie, « Je viens de relire Anna Karénine, c'est un grand roman, certainement, mais je ne veux pas parler de la construction du livre, mais de la connaissance de la femme qu'a Tolstoï. Extraordinaire, à méditer. » Donc Claude Delarue était très attentif, très admiratif, subjugué, et comme tous les écrivains, il puisait autant dans la littérature que dans le réel.
Je vais donner la parole à Jean-Maurice Dumont-Remy, dans Critique littéraire, et on sait que Claude Delarue a pratiqué la critique littéraire dans la Nouvelle Revue française comme dans la Quinzaine littéraire. Là aussi, le travail littéraire de Claude et le travail des critiques se rencontrent et sont de poids égaux.
Merci, bonsoir. Bien, je vais partir d'un propos stupide tenu par un confrère parisien qui concernait Marcel Proust. Je ne vais pas donner son nom, parce que ça ne sert à rien de provoquer des gens encore puissants. Donc ce critique très célèbre, loué par tous les journaux, qui vend très bien ses livres, a écrit à propos de Marcel Proust, et il a cru qu'il sait de l'humour, qu'au fond, quand on lit l'œuvre de Marcel Proust, c'est formidable, on est devant l'œuvre d'un écrivain d'expression allemande qui pratiquait mal le français. Quand on pense que Proust est devenu Dreyfusard et a été poursuivi parce qu'il était Dreyfusard, il semblerait que ce critique n'ait pas du tout compris qu'il tenait à propos de surcroît antisémite. Et en plus, c'est absurde, puisque, comme vous le savez, ce qui caractérise l'œuvre de Marcel Proust, c'est l'influence de Saint-Simon, du duc de Saint-Simon, et qu'on ne peut pas faire plus français, si peu, pour autant qu'on connaisse la littérature française, notamment celle du XVIIe siècle, que Proust connaissait mieux que tout le monde. Et s'il y a une œuvre qui n'est pas traduite de l'allemand, bien évidemment, c'est celle de Marcel Proust. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour me dire du mal d'un confrère parisien et vous parler de Marcel Proust, c'est surtout parce que, relisant justement Claude Delarue et réfléchissant à ce qui fait sa caractéristique et peut-être aussi à une certaine incompréhension qui s'est développée autour de son œuvre, c'est que Claude Delarue a fait l'essentiel de sa carrière à Paris. Il était même dans les milieux de l'édition parisien, même dans des comités d'éditeurs parisiens. Il est bien sûr genevois, vous le savez. Il n'a pas fait essentiellement, du moins pour ce qui est de la littérature, carrière à Genève. Et il en a souffert doublement, puisque je ne pense pas qu'il ait été très reconnu en Suisse. Et il n'a pas été autant reconnu qu'il l'eût dû à Paris. Et donc, en réfléchissant, en relisant certaines choses qu'il avait écrites, je me suis dit, nous sommes devant, assez classiquement, devant un écrivain de langue française, qui n'est pas un écrivain français, il est un écrivain de langue française, qui n'est pas un écrivain suisse, mais c'est un écrivain de langue française, ce qui lui permet d'éviter d'être le personnage exécrable dont je parlais à l'instant, dont je ne donnerai pas le nom, ou d'être d'un auteur suisse que je déteste, donc tant pis, je me risque, qui s'appelle Jacques Chessex, et que je laisse volontiers à la littérature suisse, comme ça, au moins, Claude Delarue aurait hésité un destin tragique, être comme l'écrivain français dont je ne donnerai pas le nom, et l'écrivain suisse dont j'ai hélas lâché le nom. Mais lorsque je dis que c'est un écrivain de langue française, je pense que ça montre aussi quelque chose de très intéressant sur l'évolution de notre littérature. Claude Delarue, lorsqu'il arrive en littérature, c'est donc les années 70, il s'est joué beaucoup de choses. Je parle que du petit microcosme français, franco-français, hein, donc parisien, puisque la littérature, c'est essentiellement Paris. Il s'est joué quelque chose, c'est que les années 70, ce qui est le plus novateur de la littérature française, c'est le nouveau roman. Et tout ce qui vient du nouveau roman, c'est beaucoup de la production d'éditions de minuit, un petit peu aussi parallèlement à Modiano, d'autres gens, mais tout ça, tout cet univers-là est maintenant devenu célèbre et bien installé, et malgré une contre-offensive permanente, redoutable et très très viscérale du côté des milieux, des gens qui donnent les prix littéraires, de la littérature réactionnaire. Littérature réactionnaire française, qui est l'héritière d'une grande littérature, c'est l'héritière de Barrès, c'est l'héritière d'Anatole France, c'est l'héritière de tous les auteurs des années 30, de Maurras, je ne parle pas des opinions politiques, hein, bien sûr, mais l'héritière de beaucoup de gens, Jean Giono, André Malraux, qui a perdu la place, Louis Aragon, toute cette littérature-là, qui est la littérature d'avant-guerre, est devenue, à cause des circonstances, notamment en France, très importante, de la collaboration et du nazisme. La collaboration et le nazisme, on les retrouve partout dans l'œuvre de Claude Delarue, parce que ce n'est pas uniquement un phénomène politique et de corruption majeure de l'intellectualité et du monde, c'est aussi, dans la vie littéraire, notamment française, quelque chose qui a été un clivage terrible, et un clivage terrible qui, pour des raisons sans doute compréhensibles du point de vue humanitaire, n'a pas été résolu puisqu'il n'y a pas eu d'épuration littéraire en France et le milieu littéraire français est resté jusqu'à aujourd'hui grâce à la longévité, l'increvabilité des êtres qui fait qu'on a encore des écrivains de 95 ans qui sont à l'Académie française ou qui sont en train de la quitter mais qui l'ont quitté très récemment, qui fait que la prégnance des années 1930 à la fois géniale et réactionnaire est resté intact, et le nouveau roman, dans ce qu'il avait de faulknerien, de nouveau, de provocateur, n'a jamais réussi à s'installer durablement en France, du moins dans les élites littéraires, les élites journalistiques, ou surtout ces maudits prix, qui sont la malédiction de la littérature parisienne et hélas donc française. Alors si je me permets de revenir avec Claude Delarue, en disant que Claude Delarue est un écrivain de langue française, c'est qu'à Paris, il avait justement beaucoup dans son œuvre de méditation sur les problèmes du roman en général, mais le roman français ne lui posait pas de problème particulier car il n'était pas issu de ce qu'on appelle le roman français, dont on va dire l'appeler par commodité le roman parisien. Sa culture, ses références, ses intérêts n'étaient absolument pas limités au milieu socio-politique et du monde littéraire français. Il s'exprimait en français, c'est sa langue, même s'il le connaissait bien d'autres, c'est sa langue, c'est son milieu. Il se sentait mal à l'aise en Suisse, il semblerait que ce soit une sorte de malédiction des écrivains suisses qui s'imaginent qu'il faut quitter la Suisse pour... Ils ont peut-être besoin de quitter la Suisse, Bouvier aussi, enfin, tout le monde est un peu parti. Mais il s'exprimait d'abord en français, mais sa culture profondément, et ses références, et c'est sur là-dessus que je voudrais un peu insister, ses références, au fond, sont pas celles politiques et sociales de la littérature parisienne, et ce qui lui a beaucoup nui. Alors, si je me permets de dire ça, je vais vous donner quelques exemples. J'ai pris le roman La Faiblesse de Dieu. J'ai fait allusion au nazisme, à la collaboration, à la corruption intellectuelle et éthique qu'a représenté ce phénomène pour toute la culture occidentale, bien loin même des petits phénomènes minables comme la collaboration pure et simple qu'on a pu connaître dans divers pays. La Faiblesse de Dieu est un roman très intéressant puisque Claude Delarue y raconte comment un artiste génial développe une œuvre plutôt abstraite. Il s'appelle Friedengraf, ceux qui savent l'allemand traduiront Friedengraf, ils ont déjà bien compris ce qui est caché dans son nom. Donc cet artiste et fait une œuvre remarquable il a adopté une fille qui devient une jeune femme dans le roman, dont il est le sort de Saint-Christophe, il la porte toujours sur son dos, elle vient des camps, et puis il est rattrapé par son passé, parce qu'un galeriste new-yorkais se passionne pour son œuvre, pour des raisons elles-mêmes assez troubles, et puis peu à peu, la machine se met en marche, et on retrouvera le passé auquel Friedengraf a voulu échapper, et il y aura un destin de l'œuvre d'art qui est d'ailleurs tout à fait passionnant, et qui échappe au problème du nazisme et toutes ces choses-là, qui est un autre sujet métaphysique très important de ce livre. Mais dans ce livre, c'est très intéressant, parce que Delarue a fondé son analyse sur des peintures. Donc on va se dire, finalement, et c'est pas la seule... vous remarquerez que dans ces livres, il y a l'archéologie, la peinture, il y a beaucoup de choses. Or, je pense pas que la peinture soit le sujet essentiel d'intérêt de Claude Delarue, ni d'explication formelle de l'intelligence de ses œuvres. Il a choisi la peinture, je pense, en bon écrivain, parce qu'il sait que la peinture, on peut plus facilement écrire sur la peinture, encore qu'il a, avec beaucoup d'astuces, choisi une peinture abstraite, puisque ce qui caractérise Friedengraf, c'est que ses tableaux ne sont pas figuratifs, mais un bon écrivain, et Claude Delarue, vous le savez, est un bon écrivain, n'a absolument pas peur de la peinture non figurative. Au contraire, pour bien parler de la peinture, mieux vaut ne pas trop parler de ce qu'elle est censée représenter. Or, Friedengraf, dans le livre de La faiblesse de Dieu, Friedengraf ne donne pas, il donne un seul nom à toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres s'appellent La faiblesse de Dieu. Parce qu'il a une théorie disant, ben voilà, il y a quelque chose de terrible, c'est que Dieu, par faiblesse, Dieu a voulu détruire sa création, c'est l'histoire de Noé, puis il a racheté sa création, puis il y a une deuxième tentative de destruction de la création par Dieu, et Dieu était faible, il a laissé, finalement, la créer, il a même voulu la sauver, il ne l'a finalement pas anéanti une deuxième fois. Et donc il y a un thème sur le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, qui est passionnant. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'artiste Friedengraf fait une œuvre complète qui s'appelle La faiblesse de Dieu, et on arrive, je crois, jusqu'à l'opus 50, et il la numérote par opus. Chaque tableau de porte s'appelle La faiblesse de Dieu, et porte un numéro d'opus. Toute personne qui, comme Claude Delarue, je rappelle que Delarue, son autre passion, et peut-être sa passion très profonde en dehors de la littérature, c'est la musique. Toute personne qui a une bonne culture musicale de type germanique pensera évidemment à Bach. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Bach, si c'était la gloire ou la faiblesse de Dieu? De toute façon, l'œuvre de Bach, c'est Dieu. Dans tous ses états et dans toute sa théologie et toutes ses sortes, et chacun sait, tous les amateurs de Bach le savent, que finalement pour Bach on est à BWV 1 jusqu'à BWV 857 1042, je ne sais pas quoi, et c'est très important finalement. Quand Claude Delarue veut parler de peinture, en fait il parle de musique. La musique, aucun écrivain ne peut bien parler de la musique, parce que pour bien parler de la musique il faut employer des métaphores extrêmement abstraites ou faire allusion à l'audition que personne ne peut vraiment capter. Et Claude Delarue, de manière très intelligente, alors que c'est la musique qui est au centre de beaucoup de ses œuvres, et on verra que la musique, je pense, est beaucoup plus intéressante pour réfléchir, la peinture est une chose géniale, mais pour un écrivain, il se sert des mots. Et quand on se sert des mots et qu'on veut parler de la musique, mieux vaut parler de peinture. Parce que ça permet d'éviter les problèmes d'abstraction ou de code. Si je vous dis, il n'y a rien de plus beau, c'est le cas dans La faiblesse de Dieu, que d'écouter la sonate... en si bémol majeur, posthume de Schubert, bon, sauf si vous avez écouté le 10 tout à l'heure, c'est complètement abstrait. Et l'émotion que veut signifier le narrateur ne vous dira rien, même s'il cite Scriabine ou s'il cite d'autres, Glazounov, qui joue un rôle important là-dedans. En revanche, si on décrit des tableaux qui n'existent pas et qu'on a un certain vocabulaire, on peut mettre en œuvre tout un univers symbolique et imaginaire très important. Et je pense que c'est là où Claude Delarue a apporté quelque chose, c'est qu'il a voulu parler de la musique. Mais parlant de la musique, je fais allusion à Bach, c'est important, parlant de la musique, il parle d'abord de théologie, d'une culture intense, d'un usage social de la musique. Tous ceux qui connaissent la musique issue de Bach et qui a donné le meilleur de la musique occidentale jusqu'à nos jours, et de la musique la plus contemporaine, la musique de Webern, Schoenberg, enfin tous ces gens que Claude Delarue connaissait parfaitement, tout cet univers-là lui a permis de construire son œuvre. Alors c'est une œuvre qui nous parle de statues, qui nous parle de jungle, qui nous parle d'archéologie, qui nous parle de temples engloutis, qui nous parle de beaucoup, beaucoup de choses, hein, qui sont des choses plutôt tenant de l'histoire de l'art, qui sont des icônes, au sens même théologique et orthodoxe de l'icône. Mais au fond de lui, sa technique, c'est la technique d'un musicien. Alors, c'est assez rare parce que c'est un musicien de langue française qui s'exprime en français en utilisant des techniques musicales. D'une certaine façon, de ce point de vue-là, il y a peu d'auteurs français qui aient suivi cette voie-là parce que, pour des raisons historiques, Ça n'est pas, en France, la musique n'a pas le même rôle que dans la culture germanique. Mais, en revanche, ça paraît évident, même si les deux personnages sont très différents, que pour moi, pendant longtemps, la référence de Claude Delarue, c'est évidemment Thomas Mann. Il est très différent de Thomas Mann. Mais tout ce qui est de Thomas Mann, ou éventuellement, pour ceux qui le connaîtraient encore, je ne suis même pas sûr que Claude Delarue l'ait beaucoup lu, on pourrait dire Romain Rolland, qui était le correspondant de Thomas Mann. Une œuvre littéraire très importante dans laquelle la musique est porteuse d'un message, d'abord, qui transcende les nations, qui transcende les langages, et qui est un message politique, universaliste, dont on peut se moquer aujourd'hui peut-être pour certaines générosités, mais en même temps une pensée formelle très complexe, parce que ce soit d'ailleurs Romain Rolland et bien sûr il nous est plus familier Thomas Mann, il y a une complexité de la pensée littéraire qui s'exprime dans la métaphore musicale. Et je pense que pour lire Claude Delarue, plutôt que de s'acharner à voir ses rapports avec les romans, etc., mieux vaut parler justement de la musique. Alors, je me permets bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Claude littérairement, mais je vous invite à suivre cette filière musicale, et on peut lui trouver tout de même un exemple, une métaphore. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce critique illustre des années 70 qui s'appelait Charles Moron, bien oublié aujourd'hui. Charles Moron avait écrit un livre remarquable qui s'appelait de la métaphore obsédante au mythe personnel. C'était une sorte de pré-psychanalyse des œuvres littéraires. Et je pense qu'il a assez raison, parce que chez les écrivains, on trouve des métaphores obsédantes qui deviennent des mythes personnels. Et je dirais que la métaphore obsédante, du moins pour moi, telle que je l'ai captée, de Claude Delarue, c'est le reptile, le serpent, la racine, la végétation, les choses sinueuses qui se glissent partout, qui peuvent casser. Vous savez que si vous lisez Naga, qui se passe en Indonésie, on a parlé du triomphe des éléphants, si on regarde beaucoup de livres de Claude, il se passe dans la jungle, il y a des racines partout, des banyans, des trucs qui font sauter les statues, mais enfin, il y a aussi des statues qui existent, des temples qu'on retrouve. Et donc, cette métaphore du reptile, alors le reptile, on le retrouve dans beaucoup de ses œuvres. Je ne parle pas des urbes aux yeux gris, des regards serpentesques qu'on trouve dans La faiblesse de Dieu, sur le regard de Satan, c'est le serpent, etc. Mais le serpent, il est double, il est divin, il peut être aussi maudit. Et je pense que si on suit un peu la métaphore du reptile et des yeux de serpent, les yeux de serpent, c'est pas rien, on trouvera peut-être une autre forme d'entrée dans l'œuvre de Delarue, d'autant plus que, souvenez-vous, un serpent, ça se glisse partout, dans les grandes légendes, dans les grands mythes latins, notamment dans l'Énéide, souvenez-vous, quand Énée arrive devant le tombeau de son père, qu'est-ce qui sort du tombeau et qui l'impressionne? C'est un serpent. Ça traite classiquement la Pythie à faire un serpent. Toutes les personnes qui font des oracles ont affaire à des serpents. Et je parle bien sûr du serpent de la Bible, ça vous le connaissez. Et je pense que si on a cette métaphore reptilienne, on trouvera beaucoup de la musique. Parce qu'un serpent, c'est comme un accordéon. Les écailles du serpent bougent, elles peuvent se contracter quand il s'enlace autour de sa proie, elles peuvent se dilater lorsqu'il circule, et si vous regardez bien les écailles d'un serpent, c'est comme un kaléidoscope, ça bouge, ça se contracte, c'est extrême beau, c'est une tapisserie. Et je me plairais, pour finir, par citer un petit exemple médiéval, dans un très beau sermon qu'on trouve dans des sermons médiévaux du XIIe siècle. Donc il s'agit de parler de la vie d'un frère qui est mort, et le supérieur dit que sa vie est comparable à une tapisserie qui peut être comparable aux écailles d'un serpent, au dessin proposé par les écailles d'un serpent, mais que nous, seul Dieu voit ce motif qui est celui des écailles du serpent, de la tapisserie. Parce que nous, on est de l'autre côté, et nous, comme tous les gens qui voient une tapisserie de l'autre côté, on ne voit que des bouts de ficelle coupés. Partout, partout, plein de bouts de ficelle coupés. Ça nous paraît à la fois prodigieux, étonnant, mais ce qui est de l'autre côté, ce que toutes ces bouts de ficelle coupés provoquent, c'est-à-dire l'image de la tapisserie, eh ben nous, on ne le voit pas. Et ben, peut-être maintenant, Claude, il a beaucoup composé la tapisserie et il est peut-être le seul à pouvoir voir justement ce que nous ne voyons pas. Je vous remercie.
Je vais donner la parole maintenant à Fawzia Assad, romancière elle-même. Très engagée dans des activités littéraires d'ordre très divers.
Merci. Oui, le serpent, c'est aussi la vie et la mort.
Eh bien oui.
Voilà, c'est le mythe chez Claude Delarue. Oui, alors là, Claude est un très vieil ami. C'est un ami qui fait partie de toute une chaîne d'amis. Il y a, au milieu de cette chaîne, là où on peut dire il y a un avant et un après, il y a le couple Suzanne Proulx et Charles Proulx qui faisait le lien entre la gauche égyptienne et la gauche française. Alors c'est comme ça, c'est là que ça a commencé. C'était en 1972. Claude venait de terminer de faire son baptême et sa confirmation en Suisse en se mettant au service de la Croix-Rouge suisse, et il était délégué de la Croix-Rouge à Gaza, dans la bande de Gaza, où, dit-il, il a passé 8 mois extraordinaires dans un enfer, avec du beau temps, avec les avions qui trônaient sur la tête en permanence. Alors là, Suzanne Proulx, à ce moment-là, était prix Renaudot et membre de jury de prix, et elle découvrait un auteur qui était Claude Delarue. Alors elle s'est liée d'amitié avec lui, et dans le même temps, quoi, elle m'avait encouragée à écrire un livre pour son éditeur sur une femme, l'histoire d'une Égyptienne. J'ai compris par la suite que les années 70-80 étaient classées par l'ONU décennie de la femme, et que son éditeur voulait une une série de livres sur la femme, quoi. Alors Claude était lié d'amitié avec Suzanne. Je me suis trouvée là dans un milieu. Alors moi, on a dîné ensemble chez Suzanne. Lui, à ce moment-là, nous étions en train de nous installer, construire notre maison à Genève. Lui, ça allait à Paris, mais je les retrouvais tous à Paris. Tous les Belges, tous les Suisses arrivaient à Paris, et c'est là-bas qu'on voyait les Suisses et les Belges, quoi. Alors, la conversation n'était pas extraordinaire, parce que lui critiquait la Suisse et moi je défendais la Suisse. Lui était écrivain et moi j'étais philosophe. Et en plus, j'étais bourrée de préjugés. Et des préjugés, pour moi, la philosophie était noble, le roman, la littérature, c'était n'importe quoi. Et je commençais alors, petit à petit, j'avançais dans ce projet d'un roman sur la femme égyptienne, et j'avançais, et je voyais de plus en plus la difficulté du genre, et je voyais aussi que c'était un vaste domaine pour la philosophie. Mais en même temps, je lisais Claude et je voyais qu'il allait profondément en philosophie. Il y a une phrase d'ailleurs que j'ai retrouvée dans le Baudelaire de Claude. C'est Baudelaire qui est cité. Je suis de plus en plus convaincu qu'il faut adapter la métaphysique au roman. Baudelaire n'a jamais écrit de roman, mais cette phrase est typique de Claude, enfin de Baudelaire via Claude, quoi. Alors voilà une des choses que je trouvais en effet chez Claude dans ses livres, une illustration de la philosophie. Et tous les noms de philosophes que j'aimais beaucoup, dont Héraclite. Alors, mon premier Héraclite, je ne dirais pas dont Héraclite, Héraclite à la base. Il y a cette phrase d'Héraclite, l'être, ou Léon, je ne sais pas, l'être est un enfant qui joue à construire et à détruire. Et c'est exactement le travail de Claude dans ses romans. Il construit un monde avec des mots, c'est la fiction dans toute sa grandeur. Et puis il y a la chute, il y a la, destruction de ce qu'il vient de créer. Et lui-même, par rapport à lui-même, Claude, comme Baudelaire d'ailleurs, ne se prenait pas au sérieux. Et il savait qu'ils étaient de grands écrivains. Il savait très bien que Claude n'était pas profondément modeste. C'était un faux modeste, c'était une fausse modestie. Il connaissait leur grandeur. Mais ils se disaient ratés. Ils se sentaient aussi ratés. Ils se sentaient. Il y a un sous-titre du livre de Baudelaire, L'enfant idiot. L'enfant idiot. Claude m'a dédicacé, en dédicaçant ce livre, il a écrit. Il a pointé son stylo sur l'enfant idiot et il m'a dit « c'est moi ». Alors voilà, c'était sa manière de se présenter. « C'est moi l'enfant idiot ». C'est moi, et puis j'ai tout raté. Et puis cet ratage, il le passait au monde, n'est-ce pas ? C'était le monde entier qui était raté. C'était Dieu qui avait mal fait son travail. C'était la destruction. Voilà. Il créait, mais il détruisait aussi. Il se trouvait grand, mais, et puis il et en même temps rien du tout, rien du tout. Alors voilà, il y avait ça, il y avait cette contradiction, cette appartenance à Héraclite. Il y avait aussi cette appartenance à d'autres philosophes, Schelling, Nietzsche. Nietzsche, il était très influencé par toutes ses pensées et par l'importance du mythe. C'est pour ça que le serpent est tellement important dans l'œuvre Naga, c'est très important. C'est le même thème héraclitéen de la création et de la destruction. Et c'est le thème nietzschéen de l'éternel retour, n'est-ce pas ? Alors, voilà. Bon. Alors c'est le thème du mythe et le thème de la... parce que ce qu'il construisait finalement, le thème de celui qui cherche dans les profondeurs de la terre, ce qui avait déjà existé, ce que l'humanité avait déjà créé et qu'on ne peut retrouver qu'en étant archéologue à l'intérieur de soi, archéologue sur le terrain. Et c'est ça, et c'est le thème du livre de la mosaïque. Si vous relisez la mosaïque, vous voyez que la mosaïque, c'est un soleil. C'est un soleil. Il cherche à l'excaver. Il est en train de l'excaver. C'est une œuvre d'autrefois. C'est une œuvre qui se répète, n'est-ce pas, et qui est là, embourbée dans la terre. Et à ce moment-là, il y a le terrible débordement du fleuve de l'Arno à Florence, et il engloutit, tout est englouti, tout est disparu. Alors là, il y a une symbolique extraordinaire qui fait marche arrière vers les mythes égyptiens, tous les mythes orientaux. C'est le soleil qui est pris dans le ventre de la déesse qui va le détruire ou qui va lui redonner naissance. J'aurais voulu qu'on lise ces deux pages du débordement de l'Arno pour voir la puissance de cette mise en scène du tombeau qui va envelopper et qui va détruire le soleil alors qu'il a donné naissance, alors que l'auteur a donné naissance à ce soleil et que celui qui est en train d'excaver les lieux est en train, espère ressortir ce soleil. Alors il y a cette page que Claude aimait beaucoup lire à toutes les rencontres littéraires de la force de destruction de ce débordement de l'Arno. Et cette force de destruction, c'est la force de destruction de la déesse qui est, c'est le mythe de la déesse qui est pourvoyeuse de vie et qui est en même temps destructrice, terriblement destructrice. Parce que la déesse, ce n'est pas une femme, la déesse, c'est l'eau, la déesse, c'est le destin, n'est-ce pas ? La déesse, c'est les contrastes d'Héraclite, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on crée et qu'on détruit. Alors, voilà. Claude avait de très mauvaises relations, avait une relation très tendue avec sa mère, et c'est comme Baudelaire, et il a surtout vu dans le mythe de la déesse son côté destructeur, tout à fait destructeur. Alors, il se fait que le jour du décès de sa mère était le jour du mariage de Claude Pascal et de Claude Larue. Et voilà, il reste l'histoire à continuer, mais il reste Pascal qui, je crois, représente le côté créateur et beau de la déesse. Voilà.
Nous allons entendre un petit extrait d'une chronique donnée par Claude Delarue à France Inter dans l'émission Cosmopolitaine en 2008 à propos de son dernier roman, Le Bel Obèse.
Vous dites Marlon Brando, moi je n'utiliserai pas ce nom-là.
Puisque mon nom s'appelle Brandès.
Brando est le modèle. Et effectivement, c'est la première fois dans un de mes livres que je prends un modèle existant, et surtout un modèle de cette envergure, c'est un modèle aussi extraordinaire. Alors, le désir de prendre ce modèle m'est venu simplement en voyant un film du génial modèle qui s'appelle Missouri Break, qui est un film qui est une véritable caricature de lui-même.
Je me suis dit, tiens, c'est Arthur Penn.
Et en voyant ce film qui se termine sur une scène absolument ahurissante où Brando est égorgé, il se réveille et il constate qu'il est égorgé d'une oreille à l'autre. Pendant tout le film, il a joué le rôle d'un tueur complètement fou et extravagant. Et comme il était relativement libre pour interpréter son rôle, il s'est caricaturé lui-même complètement. Il a fait tout ce qu'il était en réalité. Et c'est absolument prodigieux. Donc je me suis dit, voilà, un personnage qui arrive à se caricaturer de cette façon-là, et donc qui ne se prend pas absolument au sérieux du tout, et mieux ça si Brando ne se prenait pas au sérieux.
Brando,
parce que c'est un personnage qui, même s'il a un modèle très proche, et a tout de même sa propre identité. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de montrer le déclin d'un mythe. Parce que Brando était un mythe, il y a différentes sortes de mythes, il y a au moins deux sortes de mythes, il y a le mythe antique et les mythes modernes. Le mythe antique est en général quelque chose qui est conçu par les dieux, le mythe moderne est conçu par les médias et par le public. Il y a donc le mythe en plein, qui est le mythe conçu par les dieux, le mythe en creux, qui est le mythe conçu par les médias.
Et Brando est intermédiaire ?
Brando n'est pas intermédiaire, il est conçu véritablement par les médias. Hein, il appartient véritablement comme Marilyn Monroe, par exemple, comme James Dean. C'est un être qui a été conçu complètement par les médias. Et qui était d'ailleurs, il disait, à un certain moment, Brandès disait, celui qui est devenu un mythe et qui se prend au sérieux va droit au drame. Il est évident que le mythe conduit presque toujours droit, que ce soit le mythe antique ou le mythe moderne. Mon personnage est créé par une espèce d'empathie, en grande partie par empathie. Il est donc relativement imaginaire, il est aux deux tiers imaginaire et un tiers relatif à Brando. Une grande sympathie, il faut bien le dire aussi, même s'il a été un monstre, pour le personnage de Brando, qui est un comédien absolument génial. Vous avez entendu sa voix tout à l'heure, c'est une voix extrêmement étrange. C'est lui-même qui a trouvé ça, c'est autodidacte. Hein. Il a passé, je crois, un an seulement à étudier à Actor Studio, à la New School à New York. Et le reste, il s'est fabriqué entièrement, il s'est conçu entièrement. Vous voulez ?
C'est maintenant Pascal Rose qui va lire et parler.
Merci à tous. Vous avez dit en Doris en présentant l'extrait que Le Bel Obèse était son dernier livre. Et c'est vrai que c'est son dernier livre. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que du fait qu'il ne soit plus là, qu'on puisse mettre deux dates, une date de naissance, une date de mort, que c'est la fin. C'est très étrange d'ailleurs, mais à cause de ça, je trouve qu'on peut maintenant déjà prendre comme un recul par rapport à ce qu'il a écrit et voir des choses qui n'étaient pas encore visibles quand on pouvait imaginer qu'il y allait avoir encore d'autres livres. Il y a comme un dessin maintenant qui est clos, qui est fini, où on ne peut plus bouger. C'est ça qu'a écrit Claude. Et il n'y aura plus rien d'autre. Et du coup, on voit ce qu'il a cherché à nous donner. Et je suis d'accord avec toi, Marlise, que peut-être le livre central, c'est « En attendant la guerre », qui est un très, très beau livre, très fort, très puissant, très bien architecturé. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a eu un tournant, un peu après, disons dans le dernier tiers de son œuvre, à partir de Naga, pour ceux qui connaissent ces livres, tout d'un coup, ces livres se sont mis à être plus gros, avec un foisonnement de personnages, des actions un peu frénétiques dans le rythme et dans l'activité, et sur il s'est mis à y avoir quelque chose qu'il n'y a pas dans ses premiers livres, c'est de l'humour. Et des choses vraiment drôles. Et avec ce qu'il disait tout à l'heure sur Brando, et ce film qu'il adorait, qu'il m'a fait voir plusieurs fois, Missouri Break, un désir de caricature, c'est-à-dire un désir de comédie, de ne pas se prendre au sérieux, et de jouer avec sa propre mythologie. Elle était là, il avait établi sa mythologie, on en a bien parlé sur les perdants, sur des gens qui ont tous connu une grandeur et quelque chose qui les a fauchés, soit une faute, soit un accident de santé, soit la ruine, la perte de l'argent, tous ces thèmes-là interviennent. Et il a bien mis en place tous ces thèmes, et là, dans ce dernier tiers, il en joue avec une moquerie, avec un certain goût de la satire, mais avant tout, avec un goût de la drôlerie. Et ça m'est apparu en relisant, j'ai relu La Comtesse d'Almatte un petit peu plus précisément, pour essayer de vous parler, et je me suis rendu compte de cette force que curieusement, je ne pouvais pas vraiment voir, d'abord parce que c'était quelqu'un de sombre dans la vie, en plus, il était de plus en plus malade. Et malgré tout, il y a des choses qui sont à hurler de rire dans son livre. Alors, je vais vous parler un petit peu plus précisément de La Comtesse d'Almatte. Donc, en deux mots, je redis l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il s'agit d'une femme, cette comtesse, qui est ruinée et qui psychiquement ne va pas très bien. Et elle a eu un mari. Un père très riche et ruiné, un mari, plusieurs amants. Et donc, elle retrouve, dans une clinique psychiatrique où elle est allée se reposer, elle retrouve un ancien amant qu'elle a beaucoup aimé, elle en a maintenant un autre, et qui est Samuel, qui est un expert en gravure du XVIe siècle, et spécialement en gravure expert de Durer. Et elle, il se trouve que son amant fait des mauvaises affaires et il voudrait vendre une gravure de Durer. Mais pour ça, c'est une gravure qui est apparue comme ça, qui n'était pas sur le marché. Donc on a besoin de l'expertise de quelqu'un pour prouver que c'est bien un Durer. Et évidemment, c'est à lui, vous voyez comment se noue le fil, c'est à lui qu'on va confier cette expertise. Et donc, il va mentir pour cette femme. Il va se mettre dans des situations très, très difficiles. À côté de ça, cette femme fait des affaires absolument invraisemblables pour essayer d'avoir de l'argent. Elle a créé une sorte de compagnie de tourisme qui consiste à organiser des camps masochistes. C'est-à-dire que ce sont des faux camps de concentration où les gardiens sont déguisés en nazis et où on fait souffrir les gens et les gens payent très très cher. Et en fait, Claude s'est inspiré d'un fait divers réel parce qu'en fait, ça existe, il y a tout dans la nature. Et donc ça marche, ça permet de rapporter un peu d'argent. Mais finalement, le livre va aller à la catastrophe, Samuel va mourir et évidemment, il n'y aura pas d'argent nulle part. Donc, il y a quelque chose de... La première chose d'humour qui arrive dans le livre, c'est que l'expert est obsédé par cette gravure de Dürer. Cette gravure, c'est le rhinocéros. Vous la connaissez peut-être. Il y a un nouveau bois qui est apparu, enfin une nouvelle gravure. Et un jour, il sent dans sa main quelque chose de bizarre. C'est du cuir et c'est une laisse. Et il se trouve qu'il traîne derrière lui comme un toutou le rhinocéros de la gravure de Dürer. Et personne ne la voit, sauf lui. Il la gare sur les parkings. Il le voit la première fois dans la gare de Nyon. Et il la gare dans les parkings, il fait ce qu'il peut, etc. Personne ne la voit, sauf que la ville de Genève se trouve conchée de bouses de rhinocéros. Donc c'est très drôle. Et il est comme un magicien qui invente des choses avec un naturel absolument confondant. Ça, donc, c'est la première chose qui est vraiment de l'ordre de la grande liberté du narrateur, qui peut se permettre n'importe quoi, qui ne cherche plus à rendre compte de la réalité, de quelque chose qui est un sens. C'est avant tout s'amuser et faire preuve de son génie créatif. Il y a aussi une autre allusion comme ça au surnaturel, c'est que le personnage qui mène toutes les ficelles derrière, d'ailleurs c'est une allusion à Thomas Mann, il s'appelle Voland, c'est le diable en personne, qui est avec un béret bleu ciel aussi. Son portrait est absolument très, 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 très drôle. Donc il y a ça qui fait beaucoup rire aussi. Et ensuite, il y a toute une critique, disons, de nos mœurs. Et c'est une critique qui est une grande comédie. Ces camps comme ça, évidemment, c'est toute une réflexion sur, non seulement sur le tourisme, mais sur la notion du plaisir. En fait, ces gens sont atteints de ce qu'il appelle l'anédonisme. Il a évidemment inventé ce mot. C'est-à-dire ils sont drogués à la souffrance, quoi, à la recherche de la souffrance. Mais il y a autre chose aussi qui, moi, me fait beaucoup rire. C'est tout ce qui a à voir avec la linguistique, je dirais. Par exemple, les îles qui sont en Croatie, où se passent ces camps, s'appellent l'île de... J'arrive à peine à le prononcer, de Krk. Ça s'écrit K-R-K, ou de Burk, B-R-K. Et en fait, dans cette île de Krk, K-R-K, c'est pas celle où il y a les camps. Les camps sont à Burk, mais à K-R-K, il y a une villa qu'adore la comtesse et dans laquelle elle veut emmener Samuel vivre. Et Samuel aperçoit une villa absolument splendide et il voudrait vivre là. Et moi qui connais Claude, je sais que c'est une villa qu'il connaissait et qu'il avait vue à Corfou. Mais en serbe, Corfou, ça se dit K-R-F, Korf. Donc en fait, à la fois il invente, mais il joue avec des choses de la réalité de sa vie. Et encore un petit élément comique que je voulais vous citer, il s'amuse avec les citations. Par exemple, il va à un zoo actuellement, Samuel, parce qu'il veut essayer de se débarrasser de son rhinocéros et le remettre au zoo. Et il dit qu'à l'entrée du zoo, il y a écrit « Vous qui entrez ici, n'oubliez pas les cacahuètes et les bananes. » Évidemment, on pense tout de suite à Dante et à l'entrée de l'enfer. Mais bon. Donc voilà, il y a un jeu permanent qui le fait... où on sent qu'il a écrit ça comme une espèce sans arrêt de goût du canular. Et le trait d'humour que vous ne pouvez pas connaître, mais que moi je peux vous dire, c'est qu'il y a dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup l'humour du mari. Parce que moi, pendant qu'il écrivait ça, j'étais en train d'écrire un livre sur l'épicurisme, sur Horace. Et donc, dans le livre, il y a une critique de l'épicurisme de A jusqu'à Z. D'abord, ça s'appelle « La comtesse d'Almate » ou « Le principe de déplaisir ». Donc, sans arrêt, il se moque de l'épicurisme avec beaucoup de... Je veux dire, c'est pas une satire, c'est avec beaucoup de goût de la comédie. Et puis, il se moque aussi... c'est plus difficile à dire, mais... La comtesse, elle raconte qu'en fait, elle est dans sa clinique psychiatrique. Enfin, c'est le médecin qui raconte à Samuel, qui y est lui aussi dans cette clinique. Il lui dit, mais tu sais, parce que c'est son copain d'enfance, donc il le tutoie, et il lui dit, tu sais, fais attention à cette comtesse, de toutes les façons. Elle dit qu'elle est morte maintenant, elle est vivante, mais elle dit qu'elle est morte. Elle dit que depuis qu'elle a reçu un pot de fleurs sur la tête, elle est morte. Et il donne la date du jour où elle a reçu un pot de fleurs sur la tête, et c'est le 9 novembre 1996. Or, le 9 novembre 1996, à deux jours près, c'est le jour où moi, j'ai reçu le prix Goncourt. Et je peux vous dire que c'était un sacré pot de fleurs sur ma tête, mais sur la sienne aussi. Et donc, de voir que dans le livre, il y a des allusions permanentes qui sont comme ça, à notre vie. Il y en a une autre encore. Et après, je m'arrêterai, mais je peux vous dire. On s'était dit, dans notre campagne à Ménestro, en regardant la ferme qui était en face, c'était plutôt moi qui lui avais dit, je dis, tiens, ça serait drôle, puisqu'on est tous les deux en train d'écrire un livre, on devrait mettre cette phrase chacun, qui est, j'aimerais bien être une oie dans une cour de ferme. Eh bien, il l'a mis dans la comtesse d'Almate. Alors que moi, j'ai pas réussi à lui mettre. Il l'a mis, cette phrase. Il l'a mis, voilà. Donc, c'est... Voilà, je suis très sensible à cet aspect qui est si surprenant quand on le voit comme ça de premier abord. Cet homme qui savait s'amuser dans ses livres. Mais on n'a pas encore entendu son art, en fait. Je voudrais vous lire une petite page de La comtesse d'Almate où il n'est pas question d'humour, mais où il est question d'amour de la vie. Alors, c'est pour ça que je voudrais la lire. Si je trouve sa page. Je l'ai notée quelque part, mais ne vous inquiétez pas. Alors, page 16, voilà. Excusez-moi. Voilà, c'est là. Alors, en fait, il y a un personnage dans ce livre qui est le capitaine du bateau qui emmène les touristes se faire martyriser dans l'île de Burk. Et ce capitaine, lui aussi, fait partie de ces fameux perdants, c'est-à-dire qu'il a perdu son titre de commandant de navire parce qu'il a transporté des Kurdes à fond de cale depuis l'Iran jusqu'à l'Italie. Donc il est obligé d'accepter ce qu'il peut accepter et il travaille pour cette compagnie qui s'appelle, j'ai oublié de le dire, je crois, le Jardin d'Épicure. C'est ça qui est comique, en fait.
On peut ajouter qu'il est aussi le cousin d'Umberto Saba.
Alors, petit cousin d'Umberto Saba, il s'appelle Cesare Saba et on découvrira à la fin qu'il ne l'est pas, évidemment. Et qu'il se dit poète et qu'il ne... Et en fait, il ne fait que réécrire l'œuvre d'Umberto Saba pendant des heures et des heures, il la recopie. Mais voilà comment Claude parle de ce personnage qu'il a inventé. Dont il dit, je vous dis juste encore ça avant, que quand il se promène dans Trieste, il a des ailes dans son dos qui poussent et qui touchent par terre et que les enfants s'amusent à les lui plumer. Et ça fait bien évidemment référence au poème de Baudelaire, l'Albatros, puisqu'il est marin, que Claude... avec justesse, tu as bien dit, quelque chose, vraiment des grands points communs avec Baudelaire. Bon, je lis. Le descendant putatif du poète Umberto Saba aime la mer accablée de lumière en plein midi, le noir profil des îles qui tremblent dans la chaleur du contre-jour, les guinguettes sous les platanes et l'éclat mordoré du vin blanc de Vénétie. Il aime le ventre rebondi, les cuisses fermes et les seins gonflés des femmes, les petites filles qui crient de joie et de peur sur les escarpelettes, le chant de l'ouvrier juché sur son échafaudage et les murs surchauffés de la ville en fin d'après-midi d'été, l'odeur du vent d'orage en plein large et la proue du navire qui s'élève jusqu'au ciel chamboulé. Il aime les vieilles cités et leur mémoire de pierre qui est mémoire d'homme, le fumet de piment et de pisse dans les venelles, le gigantisme vertigineux des amphithéâtres. Il ne sait s'il préfère la mer ou Trieste, sa ville natale, dont il lui arrive de penser quand l'hiver obscurcit son faste suranné, qu'elle possède une lettre de trop, qu'elle est bien triste, triste à mourir de sa grandeur perdue, avec ses palais hors du temps, tout alourdi d'une sombre résignation. Trieste, triste, la mer, il ne parvient à décider. C'est pourquoi, une fois les formalités accomplies, il quitte la capitainerie, prend à pied le Riva Mandracchio, tourne à droite sur la Piazza dell'Unità d'Italia, passe devant les palais de la compagnie Liot Triestina et du gouverneur, rejoint la Via di Teatro Romano, puis grimpe jusqu'au Castello par la Capitolina. Et là, accoudé au parapet d'azur, il contemple sa ville étendue comme un gisant au bord de l'Adriatique. Et il ne sait toujours pas, il sait seulement qu'il ne saura jamais où est son plaisir. Voilà. Il y a un autre texte, mais j'ai peur d'abuser, mais un autre texte de Claude qui est très drôle et qui est une autobiographie imaginaire qu'il a écrit à la demande, pour ceux qui connaissent Paris, à la commande de comment il s'appelle, le directeur du Centre culturel suisse, voilà son nom, Michel, à Jeannet, Daniel Jeannet, je ne connais plus. Et il a écrit ça, et vous allez voir que son humour était encore... Donc, c'est son autobiographie, hein, écrite par lui. Je pense qu'on aura du plaisir à l'entendre. Ça s'appelle « Conditions climatiques et littérature ». Si on lit un tant soit peu attentivement les livres de Claude Delarue, on se rend compte que les éléments et les conditions climatiques, pluie, vent, froid, chaleur, orage, etc., y tiennent un rôle essentiel. Même si Genette ou Chomsky réfutent ce postulat un peu simpliste, nous pensons que l'une des raisons de cette obsession météorologique dans son écriture vient du fait que l'auteur, ayant été accidentellement conçu pendant la mobilisation par une froide nuit de novembre 1943 dans un camion militaire du parc de la ville d'Andermatt, conserva de cette réfrigérante expérience amoureuse que ses parents lui infligèrent un souvenir prénatal fâcheux. Le fait de naître un jour torride d'août 1944 à la maternité de Genève, où les infirmières, au bord de la congestion, travaillaient, paraît-il, nues sous leurs blouses, n'est sans doute pas étranger non plus à son goût pour la chaleur et les régions caniculaires. De son enfance estivale passée au bord du Léman, entre les nuages orageux accumulés sur les Alpes et le Jura, il conservera un sentiment d'angoisse latent dont il ne se débarrassera jamais. L'adolescent, puis le jeune homme, puis l'adulte ne cessèrent de voir le ciel lui dégringoler sur la tête. Il ne connut jamais la Grèce où il séjourna pourtant de nombreux mois, autrement que sous la pluie battante. Il apporta jusqu'au sud de la Tunisie, en plein Sahara, un degré d'hygrométrie jamais enregistré sous cette latitude et une tempête qui inonda les voies de communication, précipita des villages entiers dans des torrents de boue, fit pourrir les dattes sur leurs palmiers et noya des centaines de bédouins dans les ouèdes connus pour leur sécheresse séculaire. Au Maroc, la pluie l'accompagna comme une maîtresse exigeante accrochée à son bras jusqu'à la frontière mauritanienne. Partout où il se rendait, il pleuvait. En plein été, dans le midi de la France, il débarquait sous des cataractes d'eau. Ceux qui le connaissaient craignaient son arrivée et le directeur du festival d'Avignon lui envoya des sicaires. Il apprit alors que Noé était né comme lui un jour d'août, dans la constellation du Lion. Il pensa au faiseur de pluie de Saul Bello, songea à monter une affaire du côté du Sahel, demanda même aux Saoudiens wahhabites si ses services les intéressaient, mais peu doué pour les affaires, il finit par renoncer. Il s'en alla vivre à Vienne, en Autriche, s'imaginant que la musique dont il étudiait l'histoire, comparée à l'académie, dissiperait les nuages ou les transcendrait. Sachant par les manuels que l'Europe centrale jouit d'un climat continental, il espéra trouver là-bas des saisons dignes de ce nom, mais il ne put déguster un seul verre de Heuriger à Krinzig sans s'abriter sous un parapluie. L'inconscience, le masochisme ou un peu des deux, le conduisirent ensuite à Hambourg, où il séjourna plus d'un an sous des bourrasques de neige, des rafales de pluie et des litres de bière, en faisant lire Justine ou les infortunes de la vertu à de vieilles filles francophiles qui travaillaient pour la Mobile Oil. Le seul lieu où il vécut climatiquement à l'aise fut le Proche-Orient, dans la bande de Gaza, où s'écrit depuis plus de 50 ans l'un des scénarios les plus sinistres de l'histoire. Le CICR l'avait envoyé là-bas comme délégué. Il y trouva un temps radieux, des fruits excellents, des flamboyants éblouissants, une température idyllique, la peur, le terrorisme, la misère, la honte, la torture, les exactions en tout genre. Et il corrigea les épreuves de son premier livre, Face à la mer, sur la terrasse de planches disjointes du United Nations Beach Club de Gaza. Un cabanon accroché à flanc de falaise, au-dessus d'une plage parcourue jour et nuit par les automitrailleuses. Pas besoin de réveil matin, les fusillades quotidiennes dans la maison voisine remplaçaient le chant du coq. C'était la guerre, le soleil cogné d'avril à décembre, tempéré par une suave brise de mer, 8 mois de délices en enfer. Mission accomplie, il revint en Suisse où l'accueillirent à la sortie de l'avion des trompes d'eau et des douaniers grivaires. 10 jours plus tard, on lui proposait Phnom Penh, il choisit Paris, parce qu'à Phnom Penh, à cette époque, les Khmers rouges apportaient un autre genre de mauvais temps. Il choisit Paris. Et dès lors, il entra en littérature. Pas du tout comme on dit entrer en religion. Non, plutôt comme on entre dans un marécage. Sans se méfier, il avança un pied dans les sables mouvants de la littérature. Puis un second, un troisième, un quatrième. Quand il se rendit compte qu'il avançait à 4 pattes, il essaya de sortir de là, mais il était déjà trop tard. Il s'enfonçait inexorablement. En très peu de temps, la littérature l'aspira jusqu'aux genoux, jusqu'au sexe, puis jusqu'au nombril. Il manifesta alors quelques velléités de résistance, puis ce qu'il avait entendu dire que l'on fait dans des cas d'enlisement, il coucha en avant sur la littérature ce qui lui restait de buste, s'allongea sur elle comme on fait sur un lit d'infortune. Mais il lui restait trop peu de corps pour offrir une vraie résistance. La littérature l'avait déjà englouti plus qu'à moitié et il continuait de s'enfoncer. Autrement dit, il s'en allait faire carrière au sous-sol. Peu avant que la littérature n'entrât dans sa bouche, ne pénétrât ses narines, n'occultât son regard, un entonnoir se creusa autour de sa tête. Il reçut sur le front quelque chose d'humide et de froid, ploya sa nuque en arrière, tourna une dernière fois ses yeux vers le ciel. « Tiens, il commence à pleuvoir », constata-t-il, avec un désabusement voisin du mépris, en même temps qu'aspiré d'une seule succion, il disparut tout entier sous l'immensité indifférente du linceul littéraire. Quelque part, non loin de là, en un lieu moins dangereux, un éditeur, victime d'un lapsus inspiré, remarqua « On n'a pas vu de la rue depuis longtemps. Son prochain livre sort dans 2 mois et il n'a toujours pas écrit son prière d'inhumée. » Voilà. Par ces magnifiques lectures et textes qui nous ont donné à comprendre et revoir Claude Delarue dans son genre majeur et sa tonalité majeure,
Nous allons clore cette cérémonie, cet hommage, et je vous invite à descendre pour pouvoir discuter, débattre, parler encore de Claude Delarue en bas, autour d'un verre. Je vous remercie de votre présence. Merci.